Et pour dialoguer avec nous, même chemin par WhatsApp.
France Inter, sur les assistants vocaux, Siri, OK Google, Alexa, mais France Inter.
Et sur France Inter, il est 19h. Hélène Philly pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir. L'Iran frappé de toutes parts par Israël au quatrième jour d'une guerre désormais ouverte. Téhéran est la cible. La télévision d'État aujourd'hui. Depuis le G7 au Canada, Donald Trump appelle l'Iran à négocier avant qu'il ne soit trop tard. Et premier jour mouvementé au salon du Bourget, salon aéronautique. Les stands de 5 entreprises israéliennes fermées. Décision scandaleuse aux yeux du président israélien. Côté business au Bourget. Airbus, vous allez l'entendre, engrange les commandes. L'actualité, c'est aussi l'idée glissée par François Bayrou à la veille de la fin du conclave sur les retraites. Une prime pour les seniors, on vous en dira plus. Les 64 ans, en revanche, risquent de ne pas bouger. C'est au téléphone, sonne 01 45 24 7000. Finalement, les travaux de rénovation isolés, les monogestes pourront bénéficier de la prime Rénov, marche arrière toute du gouvernement face à la fronde de la filière. Et puis un petit débrief de l'épreuve de philo à la sortie avec 3 lycéens ce midi. Jamais facile, vous l'entendrez, la philo.
France Inter.
Israël n'attaque donc plus seulement les installations nucléaires de l'Iran. Au quatrième jour d'un conflit ouvert entre les deux pays, l'État hébreu frappe l'ouest de Téhéran. La télévision d'État ciblée, elle aussi. Sandrine Etoa-Handeg a pu joindre plusieurs habitants de la capitale.
Voilà ce que cet habitant de Téhéran entend depuis chez lui. Les bombardements sont horribles. Personne n'est à l'abri, confie ce trentenaire qui préfère rester anonyme. Dire que seules les infrastructures militaires sont visées et les civils épargnés, c'est faux. C'est toute la population iranienne qui est attaquée. Il décrit une ambiance de panique généralisée, la queue devant certains commerces, devant des épiceries ou des boulangeries. Les gens font des stocks. Il n'y a pas de pénurie pour l'instant, mais jusqu'à quand ? Il parle aussi des embouteillages monstres à la sortie de la ville. L'aéroport étant fermé, il y en a qui tentent d'aller en Turquie en voiture ou de se réfugier dans des villages alentours. Le gouvernement a annoncé que les mosquées, les stations de métro, les écoles allaient servir d'abris antiaériens. Si les choses empirent, on peut peut-être survivre dans le métro. Mais les écoles, ce sont de simples bâtiments, ça n'offre aucune garantie. Déplore Armin, qui habite aussi Téhéran. L'étudiant dit surtout se méfier de la communication officielle. Et quand vous ne croyez pas les autorités, vous allez sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup d'informations anxiogènes et pas fiables. Ce qui fait, conclut-il, que nous sommes encore plus effrayés par la situation.
Témoignage recueilli à distance par Sandrine Etoa-Handeg. Et l'on retrouve Michel Paul en direct de Jérusalem. Bonsoir Michel.
Bonsoir Hélène, encore bonsoir
une,
à tous.
Encore une journée de frappe intense qui font des victimes civiles. Le fait marquant aujourd'hui, c'est l'attaque à Téhéran sur la télévision d'État.
Oui, absolument. Des dizaines de frappes israéliennes en Iran, en particulier à Téhéran, où le bâtiment de la télévision publique a été bombardé. Alors l'attaque s'est produite au moment où une présentatrice commentait la situation à l'antenne. Elle a quitté précipitamment le plateau. Les émissions ont été interrompues brièvement. Auparavant, le porte-parole de l'armée israélienne, dans un message en farsi sur un compte Telegram, avait demandé aux habitants de plusieurs quartiers de Téhéran d'évacuer au plus vite avant des bombardements israéliens. Selon l'agence Reuters, qui cite des médias d'État de la République islamique, l'Iran s'apprête a lancé la plus violente attaque de missiles de l'histoire contre Israël et des alertes déjà en ce moment même dans le nord du pays à la suite de l'identification de missiles lancés depuis l'Iran. Israël frappera le dictateur iranien partout, a déclaré ce soir Israël Katz, le ministre de la Défense.
Merci beaucoup Michel Paul en direct de Jérusalem. Après l'attaque de la télévision d'État, l'Iran dénonce un acte ignoble, un crime de guerre. Les frappes israéliennes ont fait au moins 224 morts et plus d'un millier de blessés selon le dernier bilan en Iran. Tandis qu'en Israël, le dôme de fer est mis en difficulté, le ciel saturé par les missiles, 24 personnes ont été tuées. Le pays s'est confiné, magasins, écoles, entreprises fermées. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de ne pas se rendre en Israël. Situation trop imprévisible, juge le département d'État. Un nouveau front ouvert par Israël face à la menace jugée existentielle de l'enrichissement d'uranium poursuivi par l'Iran. Cette autre guerre qui promet de dominer le G7, réunit au Canada ce soir. Donald Trump y appelle déjà l'Iran à négocier immédiatement. Téhéran, dit-il, n'est pas en train de gagner cette guerre. Bonsoir Julien Nenni.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes notre envoyé spécial au Canada. Julien, Emmanuel Macron de son côté a prévu de discuter avec les chefs de gouvernement italiens, allemands, avec les Canadiens. Une bilatérale est envisagée avec Donald Trump, ce n'est pas encore confirmé, mais le président américain est bien au cœur de la stratégie française.
Oui, d'ailleurs Hélène, à l'instant, vraiment, l'Elysée nous informe que ça y est, Emmanuel Macron vient tout juste de s'entretenir longuement avec son homologue américain, avec un objectif en tête, en effet, tenter de convaincre Donald Trump de se rapprocher des positions françaises sur les dossiers chauds du moment. À commencer par Israël, bien sûr, le chef de l'État en a bien conscience, hein, son degré d'influence sur Benjamin Netanyahou est assez faible. Il compte donc beaucoup sur le rôle de pression et de dissuasion des États-Unis, principal fournisseur d'armes d'Israël, pour inciter l'État hébreu à reprendre le chemin des négociations avec l'Iran. Sur l'Ukraine aussi, Emmanuel Macron entame ce G7 avec un espoir, convaincre Donald Trump d'imposer des sanctions beaucoup plus fortes contre la Russie, faute de cesser le feu. Mais ça semble déjà mal parti. Hein. Il y a une heure, à peine arrivé ici à Kananaskis, le président américain a largement refroidi l'ambiance. Il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine si le G7 n'avait pas viré la Russie en 2014, a tonné Donald Trump face à la presse. Poutine s'est senti insulté quand vous avez fait ça. Fin de citation. Si Emmanuel Macron et les Européens parviennent à maintenir leur turbulent homologue américain autour de la table d'ici demain soir, ça sera déjà une petite victoire.
Merci beaucoup Julien Nenni, direct avec Fabien Gosset. Vladimir Poutine qui a appelé aujourd'hui de concert avec le Turc Erdogan à la fin des hostilités entre Israël et l'Iran. Hors de question qu'il joue les médiateurs, s'opposait hier le président français. Plusieurs personnalités iraniennes, dont les prix Nobel de la paix Narges Mohammadi et Shirin Ebadi, des cinéastes primés à Cannes, aussi comme Jafar Panahi, signent une tribune pour appeler à la fin des hostilités militaires et à l'arrêt de l'enrichissement d'uranium par la République islamique. Tandis qu'en France, le gouvernement a fait fermer plusieurs stands d'entreprises israéliennes au salon aéronautique du Bourget, parce qu'exposant des armements offensifs, moralement inacceptables face à la terrible situation des Gazaouis. L'ambassadeur d'Israël en France, qui était sur Inter il y a quelques minutes, regrette que l'État hébreu ne soit pas traité de la même manière que les autres qui ont le droit d'exposer de tels armements.
Dans le même temps, au salon, Airbus décroche des contrats stratégiques.
L'avionneur européen remplit son carnet de commandes au salon du Bourget où l'on retrouve Luc Chemla. Bonsoir Luc.
Bonsoir.
Airbus qui récupère certains clients historiques de Boeing.
Oui, avec la compagnie polonaise LOT, cliente traditionnelle de Boeing, et du brésilien Embraer. Commande ferme de 40 avions A220 pour moderniser sa flotte, montant de l'opération un peu plus de 3 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout, car au total, aujourd'hui, Airbus a engrangé 105 commandes. Dans la liste des contrats annoncés, on trouve la compagnie saoudienne Riyad Air en plein lancement et qui, elle, achète 25 gros porteurs A350. Le salon démarre fort pour l'avionneur européen et cela témoigne tout simplement de la bonne forme du groupe, explique Wouter Van Hersch, président d'Airbus International.
On est en train d'augmenter le nombre des livraisons. Donc aujourd'hui, on a un objectif d'environ 820 avions à livrer en 2025. C'était 776 l'année dernière. Donc on fait une augmentation de cadence. On est en train d'investir pour pouvoir livrer plus d'avions.
Et Airbus assure avoir un carnet de commandes rempli pour les 10 prochaines années.
Et pendant ce temps-là, Luc, Boeing se fait tout petit.
Déjà, contrairement à Airbus, oubliez les successions de grandes annonces de commandes. Ce n'est pas la priorité pour l'avionneur américain, conséquence du crash d'un de ses avions de la compagnie Air India, qui a fait au moins 279 morts la semaine dernière. Son PDG a d'ailleurs annulé sa venue au salon et en coulisses, on décrit un contexte difficile. Boeing a bien un stand, mais ça n'ira pas plus loin. Plusieurs événements médiatiques prévus n'auront finalement pas lieu. Le but est quand même d'être présent pour les clients et partenaires, mais clairement, l'ambiance n'est pas à la fête.
D'autant plus, merci Luc Chemla. En direct du salon du Bourget, d'autant plus que Boeing remonte un nouvel incident sur l'un de ses avions, le même modèle que celui qui s'est crashé la semaine dernière. Il était censé relier Hong Kong à New Delhi aujourd'hui, mais il a fait demi-tour un tout petit peu après le décollage à cause d'un problème technique dont on ne connaît pas la nature. Les airbags Takata font une nouvelle victime. Une mère de famille est morte la semaine dernière à Reims après un accident sur la rocade de la ville. C'est le 19e accident mortel en France, le deuxième en métropole. liée à cet airbag défectueux. Information de la cellule investigation de Radio France, la question d'un rappel plus large pourrait se reposer aux constructeurs. Encore du changement du côté de MaPrimeRénov. Le dispositif mis sur pause par le gouvernement face au déferlement de demandes, face aux fraudes aussi, disait le gouvernement, eh bien, il est finalement en partie remis en route. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Marche arrière du gouvernement face à la fronde de la filière rénovation. Il décide de maintenir une partie du dispositif.
Oui, le guichet dit des monogestes, c'est-à-dire des travaux de rénovation réalisés un par un, simple changement de dispositif de chauffage par exemple, ou encore simple changement de fenêtre. Tous ces gestes isolés restent finalement éligibles à l'obtention d'une subvention, y compris cet été, avec le même niveau d'aide pour le moment. Le gros coup de colère ces derniers jours des artisans et professionnels du BTP a pesé dans cette décision. Il faut dire qu'il s'agit de travaux plus modestes, qui coûtent à l'État en moyenne 10 fois moins que les rénovations d'ampleur, 4 000 euros de subvention seulement versus 40 000, voire plus pour les rénovations globales. À l'exception de ces travaux donc et des dossiers déposés par les copropriétés, tout le reste sera bien suspendu d'ici le 1er juillet et jusqu'au 15 septembre, le temps d'identifier, vous le disiez, et de sanctionner les fraudeurs, dit l'exécutif, mais aussi de revoir à nouveau le barème, un barème qui devrait être recentré sur les passoires thermiques F et G et avec des plafonds de subvention moins généreux, prévient d'ores et déjà le ministère du Logement, y compris potentiellement sur ces fameux monogestes de travaux.
Merci beaucoup Claire Chaudière. Rénover pour moins consommer, pour mettre fin aux passoires énergétiques, MaPrimeRénov, l'un des leviers de la transition au moment où les députés se penchent sur une proposition de loi censée fixer les objectifs énergétiques de la France pour les prochaines années. Un texte qui permet aux parlementaires de débattre, même s'ils ne décideront de rien. Leur débat est censé inspirer le décret que prendra le gouvernement sur la programmation pluriannuelle de l'énergie d'ici à la fin de l'été. Lise Roseveille, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. L'un des grands textes, l'un des grands axes de ce texte porte sur la relance du nucléaire. Et sur ce sujet, il y a bien deux visions qui s'affrontent dans l'hémicycle.
Oui, à la tribune, le rapporteur du texte, le député Ensemble pour la République, Antoine Armand, met tout de suite la pression aux députés.
J'espère qu'au moment de voter la potentielle plus grande relance nucléaire de notre pays, personne ici ne se cachera derrière son petit doigt.
En inscrivant la construction de 14 nouveaux EPR et aucun objectif chiffré sur les énergies renouvelables, le rapporteur fait un pas vers le Rassemblement national. L'élu insoumis Mathias Tavel enrage.
Allez-vous faire le choix du trumpisme énergétique en mendiant les voix des climato-sceptiques qui siègent à l'extrême droite de cet hémicycle? Ou allez-vous faire le choix de la raison, de la décarbonation, de l'accord de Paris en rejoignant les positions que nous défendons, sobriété, efficacité, énergie renouvelable.
Les insoumis comme les écologistes reconnaissent que la France a encore besoin du nucléaire, mais pas au point de le relancer massivement et au détriment des énergies vertes. Le RN Maxime Amblard leur répond.
Alors que vous vous enfermez dans une écologie de renoncement punitive, nous décidons, nous, au Rassemblement national, d'emprunter un autre chemin. Celui d'un approvisionnement énergétique abondant, décarboné, durable et abordable.
Maxime Amblard, ancien ingénieur chez Framatome, leader français du nucléaire.
Merci beaucoup Lise Roseveille, en direct de l'Assemblée nationale avec Raymond Albouy. Et le PS qui a sauvé le gouvernement Bayrou de la censure en échange d'une remise à plat de la réforme des retraites. Va-t-il se retrouver piégé? Fin du conclave demain des partenaires sociaux et Matignon compte sur un accord, non pas sur les 64 ans, mais les carrières des femmes, les carrières longues. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
François Bayrou sort d'ailleurs une proposition de dernière minute ce soir, une prime pour les seniors qui décideraient de rester au travail.
En fait, de ce qu'on comprend, la proposition du Premier ministre s'adresse aux salariés qui auraient tout leur trimestre, mais qui décideraient de poursuivre une activité quand même, une prime, donc pourrait leur être versée en plus de leur salaire, ce qui serait de fait une incitation à rester en emploi, sans qu'on sache qui paierait cette prime, comment. Les syndicats avouent avoir du mal à comprendre, et de toute façon, ça tape à côté, et pour la CFDT, et pour la CFE-CGC, le conclave devait aboutir à des solutions pour partir plus tôt. Là, ce qu'il nous sort du chapeau, c'est une idée pour continuer à travailler sans répondre aux questions et aux sujets de pénibilité. À l'heure où les bacheliers ont passé la matinée à plancher sur la philo, c'est hors sujet, lâche un négociateur. François Bayrou, qui semble néanmoins vouloir occuper le terrain, montrer qu'il y met du sien, alors que les discussions doivent s'achever demain et qu'elles s'annoncent encore très compliquées. Pour le Premier ministre, ce conclave, c'était son idée, son bébé. Il cherche donc visiblement à montrer qu'il aura tout fait pour le faire aboutir à quelque chose de concret.
Merci beaucoup Maxime Deps. Une panne qui dure pour les clients de SFR. Des milliers de signalements remontent depuis ce midi. Absence de réseau 3, 4 ou 5G. L'opérateur parle d'un incident technique indépendant de sa volonté. Il promet un retour à la normale dans la soirée.
À 19h, presque 15, Hélène, la pénurie d'antidépresseurs en France pousse certains à traverser la frontière.
Plusieurs semaines maintenant que les stocks sont à sec, les boîtes n'arrivent qu'au compte-gouttes. Théralide, sertraline, l'arrêt soudain de certains médicaments pour traiter la schizophrénie ou la bipolarité peuvent avoir des conséquences très graves. Alors ils sont de plus en plus nombreux à passer la frontière. Celle de la Belgique, notamment. Reportage à Lille, signé Lou Garnier.
Plus aucun stock de sertraline. Cela fait 6 mois qu'Hélène prend cet antidépresseur.
J'ai vraiment été mise devant le fait accompli. J'ai appelé une dizaine de pharmacies dans la métropole lundi matin, un peu en panique, et j'en ai pas du tout trouvé. L'anxiété liée au fait de pas avoir mon médicament, c'est quelque chose qui m'affecte, qui m'inquiète beaucoup.
Arrêter son traitement, c'est prendre le risque de rechuter. Alors cette Lilloise a choisi d'aller en Belgique, quitte à payer 30 euros la boîte de sang comprimé, le double de ce qu'elle paye en France.
Au-delà du coût du déplacement, il n'y a pas le système de sécurité sociale mutuelle français. Le traitement là est 100% à ma charge pour le moment.
Traverser la frontière pour trouver son traitement, Laurence le recommande de plus en plus à ses patients. À cause de la pénurie, la pharmacie n'a dû créer une liste d'attente.
Dès qu'on récupère une boîte, malheureusement il y a 10 personnes qui attendent après. Là je vais regarder. Alors par exemple, le sertraline 50, là j'en dois 15 boîtes. On essaye de ne pas interrompre les traitements. Mais malheureusement, quelquefois, c'est compliqué, quoi.
Après les antibiotiques et le paracétamol, cette nouvelle pénurie l'épuise.
C'est fatigant au quotidien de devoir gérer ça. En fait, on prend une ordonnance, on se dit, bon, qu'est-ce qui va manquer encore? Enfin, c'est pénible, quoi.
Dépendant des stocks qu'ils reçoivent, les pharmaciens n'ont aucune idée du temps qu'il faudra avant un retour à la normale.
Le reportage ici, Nord, Lou Garnier. Mais quelle idée! En Italie, ce touriste n'a pas trouvé mieux que de s'asseoir sur une œuvre pour se prendre en photo. Une chaise composée de centaines de cristaux Swarovski, inspirée de celles peintes dans un tableau de Van Gogh, et elle a cassé. Pas fière, les deux touristes se sont enfuis. Le musée de Vérone a porté plainte. L'artiste Nicolas Bola, pas si fâché finalement, il y voit même un côté artistique. Ça aurait pu nourrir la réflexion des lycéens ce matin pour la grande épreuve de philo du bac. Avons-nous besoin de l'art? C'était l'un des sujets. Ces trois amis-là ont préféré la vérité. Est-elle toujours convaincante? Ils débriefent au micro de Sonia Princey.
C'était le plus simple, je trouvais. J'ai pris la vérité aussi. J'ai mis un peu de temps à réfléchir, à savoir quel sujet j'allais prendre, mais j'ai dit que la vérité n'était pas toujours convaincante. J'ai dit qu'on pouvait douter de certaines vérités. Je sais même plus ce que j'ai mis.
Est-ce que tu as parlé de la théorie scientifique là, avec les quatre trucs là? Théorie, expérimentation.
Ah, critère de réfutabilité.
Ouais, c'est ça. C'est...
Ah ouais.
Tu as parlé de ça?
Ah oui.
Ah, carré alors. Moi aussi j'ai parlé de ça.
En fait, c'est le truc qu'on a le plus travaillé, je pense.
Et donc, tu penses que tu t'en es bien sorti?
En théorie, je vais dire que oui, mais bon, j'ai pas envie de me porter l'œil, donc on va rien dire. On verra bien le résultat final le 4 juillet.
Voilà, c'est à ce moment-là qu'on sort à tout. Casper, du lycée Corot à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Le théâtre contre l'oubli. Enfin, 30 jeunes comédiens amateurs venus de Berlin, de Bourges et de Clichy-sous-Bois s'emparent du texte de Georges Samprin, L'écriture ou la vie, qui évoque la déportation de l'auteur. Ils ont fait un vrai travail autour de ce texte et l'ont répété au Théâtre du Soleil à Vincennes, où Fanny Humbert les a rencontrés.
Allez, on reprend.
Articulation, position du corps, Logan et Jamel répètent leur scène.
Je suis emprisonné parce que je suis un homme libre.
Pour eux, la découverte du texte où Georges Samprin raconte sa déportation a été un choc.
J'ai l'impression que c'est une partie de l'histoire qu'on essaie d'oublier.
C'est dingue, c'est grave.
Parce qu'en fait, ça peut se répéter à tout moment et partout.
Pour certains, faire du théâtre, ça ne leur était même pas venu à l'idée.
Quand on entend la banlieue et quand on entend Clichy-sous-Bois, par exemple, les gens ils se disent, ceux-là, c'est des gens, ils vont casser, ils vont voler, ils vont...
Donc, ouais, c'est important pour nous de leur montrer qu'on peut porter des écrits littéraires, on peut aller au Théâtre du Soleil, on peut vivre avec des Allemands, on peut parler anglais, je sais pas, on peut faire plein de trucs. Comme il a dit Kos, on casse les barrières.
Anglais, allemand, français, avec beaucoup de gestes, tout le monde arrive à se comprendre et des amitiés se créent.
On parle beaucoup de la douleur, c'est sûr, et la tristesse, mais aussi de la vie, la joie, être ensemble, pas être seul, dans un collectif, fraternité, yes.
Pour Yamabas et Jean-Baptiste Sastre, à la mise en scène, ce sont ces jeunes qui incarnent l'espoir.
Comment ces jeunes
jeunes peuvent s'emparer de cette littérature avec ce que chacun a à offrir de lui.
Quand on propose un projet à la jeunesse, ces jeunes se jettent à l'intérieur de ces projets-là. Et ça permet de les sortir d'un ennui.
Une pièce à 30 voix, mais tenue d'un seul souffle, celui de la jeunesse, diverse et pourtant unie.
La paloma, adieu.
L'écriture ou la vie, c'est au Théâtre du Soleil jusqu'au 22 juin.
Merci beaucoup, Hélène Philippe. Vous reviendrez demain dans un instant. C'est le téléphone sonne. On parle de ce fameux âge des 64 ans et de la fin du conclave demain. On jette d'abord un œil sur le ciel.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Elodie Kallak, journée ensoleillée pour demain.
Oui, beaucoup de soleil dès le matin quasiment partout. Bémol vers les régions proches de la Manche. Il faudra composer avec des brouillards et des nuages bas sur le littoral. Le soleil reprendra ses droits, mais quelques grisailles pourront quand même persister très localement sur la pointe bretonne et les côtes normandes. L'après-midi, toujours beaucoup de soleil. Quelques nuages au nord de la Loire sans conséquence. Peut-être un peu plus de nuages aussi sur les Pyrénées et sur le sud des Alpes, jusque dans l'intérieur de la Provence et sur la côte d'Azur, avec une petite averse possible. Le vent faiblira en Méditerranée, mais on aura encore des rafales jusqu'à 60 km à l'heure sur l'est de la Corse.
Et des températures en hausse.
Oui, matin comme après-midi. Alors le matin, souvent 10 à 16 degrés, jusqu'à 18 à 22 en Méditerranée. L'après-midi, 20 degrés attendus à Cherbourg, 22 à Brest, 27 à Metz et Besançon, 28 à Lille ou à Antibes, 29 degrés à Paris, Rennes, Bourges, Lyon, Toulouse également, 30 degrés à Tours et à Bordeaux et 33 pour Nîmes ou Perpignan. Et les températures vont continuer à grimper au fil des jours. Sous le soleil, de très fortes chaleurs sont attendues pour la fin de la semaine.
Élodie Kallak de Météo France.
France Inter, 11h, Nagui et Leïla Kadour.
Ce mardi, nous recevons Elisa Erka et Baptiste Le Caplin.
Et nous partirons sur les traces du CID et du plus mythique festival de théâtre au monde avec la comédie romantique Avignon.
La bande originale tous les jours à 11h sur Inter.
Mission décarbonation avec EDF.
Rendez-vous tout à l'heure dans Mission décarbonation. Nous recevrons Bettina Lavaux, responsable solutions énergétiques pour les entreprises chez EDF.
France Inter, partenaire des Francopholies de La Rochelle. Plus de 80 concerts et rencontres musicales du 9 au 14 juillet 2025 avec Clara Luciani, R, Lamomali, SDM, Ayam, Philippe Catherine, Solane, Cassius, Dali et bien d'autres. Les Francopholies de La Rochelle. Un événement France Télévisions et France Inter.
Allez, il est 19h22.
France Inter, le 18-20, Fabienne Sintès.
64 ans, sinon rien. Alors, il semble que le débat sur le sujet soit clos à la veille de la fin du conclave sur les retraites, la fin théorique, puisque François Bayrou l'a redit aujourd'hui. D'ailleurs, s'il faut quelques jours de plus, on les prendra. Mais on a bien compris que pour les participants qui restent, côté syndicat en tout cas, s'il faut continuer à pousser pour modifier cette réforme, ce n'est pas vers l'âge de la retraite que ça se passe. Les 64 ans, apparemment, sont là pour rester. Alors, j'entends d'ici ceux qui protestent, mais aussi peut-être ceux qui pensent qu'objectivement, on savait bien que ça finirait comme ça. On veut vous entendre les uns comme les autres. Et puisque ça semble se terminer comme ça, y a-t-il des choses à gratter pour que la pilule passe mieux auprès de vous qui allez partir ? Donc plus tard. Exemple, que dire de l'âge de la décote qui passerait à 66 au lieu de 67 ans ? La décote, vous le savez, c'est l'âge butoir pour une retraite pleine, quel que soit votre temps de cotisation. Exemple encore, pour l'instant 40%, vous m'arrêterez si je me trompe, de ceux qui travaillent échappent à la réforme à cause, grâce aux carrières longues. Peut-on rouvrir, et comment rouvrir plutôt, la question de la pénibilité, remettre sur la table ce qui a été enlevé pour permettre à plus de gens de sortir ? C'est le pari de plusieurs syndicats et on y viendra. On parle de charges lourdes, on parle de vibrations par exemple. Y a-t-il d'autres leviers à mettre sur la table autre que l'âge pour permettre de maintenir les caisses à flot sans voir encore une fois cet âge butoir aller jusqu'à 66 ans et même plus ? Est-ce que ça nous fait réfléchir ? Ses voisins, c'est le cas du Danemark, ça n'a échappé à personne, qui veulent faire bouger l'âge en fonction de l'espérance de vie, la CPME l'a mis sur la table comme ça et ça a mis le feu à la table. Et puis nous reviendrons à cette proposition de François Bayrou il y a quelques heures seulement, permettre à ceux qui veulent rester, les seniors donc, de toucher une partie de leur retraite en plus de leur salaire, histoire de pimenter financièrement leur volonté de travailler plus longtemps. On essaiera de comprendre ce qui ça concerne, si ça concerne réellement beaucoup de monde, est-ce que ça changerait vraiment. Allez, en attendant, 64 ans, sinon rien, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Hervé, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir. Je voulais déjà remercier tous les techniciens et sondardistes qui m'ont accueilli.
Eh bien, on est ravis. On les remercie aussi. On vous écoute, Hervé.
C'est simple, j'ai pris ma retraite il y a moins de 6 mois, donc au 1er janvier de cette année. J'ai 64 ans, j'ai travaillé dans la restauration pour plus de 30 ans dans ma carrière. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Je pense qu'il était largement temps.
Ok, pardon,
J'en avais marre, quoi. J'en avais plus que ras-le-bol. Il faut savoir que à l'école JR où on m'a appris mon métier, en première année de BEP, je faisais 52 heures de cours par semaine. Mm-hmm. C'était dans les fins des années 70.
Et
Imaginez le temps de travail que j'ai eu, quoi.
Vous aviez une carrière hachée, Hervé, ou pas? Parce que 18.
Comme dans tout un restaurant.
Voilà. Parce que j'allais vous demander pourquoi vous attendez 64 ans, en fait. Parce qu'en ayant une carrière longue, potentiellement une carrière moins hachée, peut-être vous aurait permis de partir plus tôt. J'imagine que vous êtes parti dès que vous avez pu, quoi.
Ouais. Et puis sans la préparer. Mais
visiblement, c'est pas grave, c'est pas toujours grave. Merci beaucoup, Hervé. C'est mieux de préparer sa retraite, comme on dit souvent, mais enfin, c'est bien aussi. En tout cas, ça a l'air de vous convenir. Merci beaucoup, Hervé, pour ce premier appel et pour cette entrée en matière pour discuter ensemble au téléphone sonne. Et jusqu'à 20h, il y a Franck Morel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat expert associé à l'Institut Montaigne. Vous êtes ancien conseiller social à Matignon et au ministère du Travail. Il y a Cyril Chabanier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC, et vous participez à ce fameux conclave, la CFTC, alors que d'autres, on le sait, nous y viendrons, ou claquer la porte, certains plutôt que d'autres, la CGT, FO et U2P. On se demandera d'ailleurs aussi quelle est la valeur, au fond, de ce qui peut sortir de ce conclave quand le nombre de participants a beaucoup baissé. Quand on écoute Maxime, Cyril Chabanier, est-ce qu'on dit, par exemple, que l'une des clés, l'une des manières de faire bouger les lignes, si on ne bouge pas les 64 ans, c'est typiquement de la faire bouger pour des gens comme Maxime, qui peuvent avoir la possibilité de partir plus tôt, est-ce qu'ils rentrent dans la pénibilité? Est-ce qu'on peut faire en sorte de faire rentrer ces gens-là à l'intérieur d'une réforme où finalement ils n'étaient pas? J'y mets des guillemets parce qu'ils n'y étaient pas réellement.
Oui, c'est tout l'enjeu d'ailleurs de ce conclave, et la pénibilité est un enjeu majeur. D'ailleurs, si on ne peut pas forcément bouger l'âge des 64 ans, notre idée c'est d'essayer de faire partir un plus grand nombre de personnes avant les 64 ans, notamment en réintégrant ce qu'on appelle les critères ergonomiques qui ont disparu il y a quelque temps, donc les charges lourdes, les postures difficiles, les vibrations. Et aujourd'hui, on arrive à s'entendre avec d'autres organisations syndicales encore présentes, et ce qu'on met sur la table sur le sujet de la pénibilité pourrait permettre de faire partir entre 300 et 500 000 personnes de manière anticipée par des critères de pénibilité. Et donc on voit que c'est pas neutre, 300 000 à 500 000 personnes par an. Et donc on se bat pour ça, qui est un moyen de bouger sur l'âge sans que l'âge légal ne bouge à 64 ans.
Juste une chose, je vous donnais la parole évidemment, Franck Morel. D'abord, est-ce que ça veut dire que on est d'accord là-dessus, on a acté les 64 ans, ça n'existe plus? Enfin, c'est-à-dire maintenant c'est là, et les deux pieds dans le béton, les deux pieds dans le ciment.
Non, on ne l'a pas acté, et on continue à dire qu'on pourrait le financer de manière différente, mais on voit aujourd'hui qu'on n'aura pas d'accord avec le patronat sur l'âge légal. Est-ce que pour autant il faut arrêter les négociations? On ne le pense pas. Le Premier ministre d'ailleurs avait dit qu'il pourrait transposer accord total ou accord partiel lorsqu'on a débuté ces négociations. Donc l'accord total, on sait qu'on n'y arrivera pas. Un accord partiel sur la pénibilité, sur les droits familiaux, sur l'âge d'annulation de la décote dont vous parliez au tout début, pourrait être déjà une avancée importante, et en tout cas une amélioration de la loi Borne. Et nous, tout ce qu'on peut améliorer de la loi Borne est un plus qu'on est prêt à prendre.
Vous avez déjà répondu quand même là-dessus, notamment la CPME sur les charges lourdes, sur les postures pénibles. Ils ont dit oui, c'est vrai, ça peut, on peut travailler là-dessus, mais pas en partant plutôt à la retraite, en ayant des conventions de reconversion, etc., des possibilités pour changer de métier dans son métier et partir à l'âge légal, mais pas pour partir plus tôt. Pour l'instant, la négo, elle en est là, visiblement.
Oui, c'est du côté patronal, ils ont acté qu'il y avait des améliorations à faire du côté de la pénibilité, mais plutôt, comme vous le dites, au niveau de la prévention.
Exactement.
Alors évidemment, c'est très important, la prévention.
La prévention, la reconversion. Ouais.
Alors oui, prévention et reconversion, mais on est bien sur le domaine de la prévention. C'est pas un gros risque, parce que si c'est très important, la prévention, c'est pas très engageant pour le patronat. Donc c'est toute la discussion de demain. On veut faire bouger les lignes sur plus de personnes qui pourraient avoir un départ anticipé. Si le patronat ne bouge pas sur ça, il n'y aura pas d'accord, y compris partiel. Mmh. C'est la condition à ce que les négociations se poursuivent.
Et s'il faut d'ailleurs poursuivre plus longtemps le conclave, que ça ne se finisse pas demain finalement, mais si vous êtes sur une petite base de quelque chose prolongée de quelques jours, est-ce que vous dites dont acte au point où on en est ou pas?
On est prêt à prolonger si demain le patronat nous dit qu'ils sont prêts à faire un geste supplémentaire sur la pénibilité et sur l'âge d'annulation de la décote. Les droits familiaux, on est arrivé à un accord. Mmh. Donc si sur ces deux sujets, il faut prolonger un petit peu, parce qu'il faut écrire encore des améliorations, on prolonge. Si demain ils nous disent que sur ces deux sujets, c'est terminé et qu'ils n'iront pas plus loin, la prolongation ne servira à rien.
Franck Morel, vous, monsieur l'expert, est-ce que ces leviers-là, qui sont en fait d'autres leviers, qui permettent une espèce de manière de faire un compromis, puisque ça permet de rester à flot sans toucher l'âge de 64 ans, mais néanmoins faire un certain nombre de bougies, comme on dit, notamment sur la pénibilité, est-ce qu'on dit dans ces cas-là, ouais, il faut regarder de plus près en fait ce qui avait été enlevé, il faut remettre tout ça sur le tapis?
C'est toujours intéressant, effectivement, de regarder l'ensemble des leviers qui peuvent être mobilisés dans le cadre d'une réflexion sur notre système de retraite. Je vais vous donner un exemple concret. L'auditeur, tout à l'heure, évoquait le fait, d'une part, qu'il avait commencé à travailler très tôt, et d'autre part, qu'il avait travaillé dans l'hôtellerie-restauration. Alors, commencer à travailler très tôt, c'est un critère purement arithmétique. Ouais. Si on s'en tient à ce critère, on constate que beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle en régime de carrière longue sont en réalité des personnes qui ont une espérance de vie à la retraite, en moyenne, beaucoup plus élevée que ceux qui ne sont pas en carrière longue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un sujet de ciblage, entre guillemets, par rapport à la cible qui normalement est celle des carrières longues, qui est le fait de viser des métiers pénibles. Quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie-restauration, j'imagine souvent que c'est quelqu'un qui va être considéré comme travailleur de nuit, parce que les services du soir durent souvent très longtemps, et donc on a déjà dans les critères de pénibilité le travail de nuit qui peut être pris en considération. Est-ce que dans le cas de la personne, c'est quelque chose qui a été pris en considération ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui est possible. Alors, effectivement.
Donc, ça veut dire un système qui pourrait être un peu à la carte, en fait.
Alors, système à la carte. Il faut faire attention à une chose, c'est que.
En tout cas, sur ces critères de pénibilité, pardon de vous interrompre, pour que ce soit bien, bien clair, on est effectivement à 64 ans, mais évidemment qu'il y a une grosse différence entre moi, quand j'aurai 64 ans, qui suis là en face d'un ordi en train de vous parler, et Hervé, qui était restaurateur. Donc, au-delà même de l'aspect pénibilité, un à la carte, derrière la carte, en fait.
Oui, j'y viens. Il faut faire attention sur les questions de système à la carte, le fait qu'un régime de retraite en soi rétroagit aussi sur le marché du travail. Les acteurs du marché du travail adaptent, qu'il s'agisse des actifs ou qu'il s'agisse des employeurs, adaptent leur comportement par rapport au régime de retraite. C'est pour ça que je pourrais dire de manière peut-être un peu simplificatrice, mais vraiment réelle, ça a été étayé dans les données qui ont pu être constatées, le premier effet de l'élévation de l'âge légal issu de la réforme de 2010 ou l'issue de la réforme de 2023, c'est l'élévation du taux d'emploi des seniors, globalement. Parce que, effectivement, avez un effet horizon sur les comportements des acteurs qui décalent leur comportement avant même l'effet sur le régime de retraite. C'est plus rapide d'ailleurs, parce que l'effet sur le régime de retraite, lui, il va prendre du temps, puisqu'il y a une montée en puissance progressive de ces éléments. Donc il faut faire attention à cette dimension-là, c'est-à-dire on ne peut pas regarder la situation des régimes de retraite de manière isolée, sans prendre en considération l'impact sur le marché du travail de ce qu'on met en place.
Alors on va y venir à cet impact, effectivement, Cyril Chabanier, mais puisqu'on était aussi sur le temps, je vous ai entendu dire déjà que la mesure d'âge, on comprend très bien à quoi elle sert en termes de remplir de l'argent dans les caisses, on a compris quel était le mécanisme. Vous dites que ça ne tient qu'à court, éventuellement moyen terme. Pourquoi ça ne tient pas sur le long terme, en fait?
Alors, le rapport de la Cour des comptes a été extrêmement clair sur ça. C'est très efficace, parce qu'il y a un décalage qui fait que, mécaniquement, l'argent rentre très vite dans les caisses, mais ensuite, ce décalage s'estompe au fur et à mesure que les années avancent, et donc le rendu financier est beaucoup moins important. Et d'ailleurs, ce qu'on constate depuis 20 ans, c'est que, grosso modo, on nous fait une réforme sur l'âge, alors soit sur l'âge, soit sur la durée de cotisation, on nous en fait une tous les 4-5 ans, parce que c'est très efficace pendant...
C'est pas fini, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, c'est peut-être pas fini.
Si on lit ce qu'on lit dans le corps, on se dit que...
Mais vous pouvez partir depuis des années 2000, on a une réforme tous les 4-5 ans, parce que si sur les compte de 2, 3, 4 années qui suivent la réforme, c'est plutôt efficace. Rapidement, il manque. Et vous avez vu que dans les dernières prévisions, malgré la réforme Elisabeth Borne, en 2030, il manquera encore 6 milliards. Donc on voit que c'est pas la...
6,5,
et ça dépend selon les quelques simulations, mais autour d'entre 6 et 7 milliards. Et donc on voit que c'est pas la solution adéquate, et c'est pour ça qu'on proposait d'autres sources de financement. Mais on n'a jamais pu discuter réellement de ces différentes sources de financement, et c'est ça le problème.
Au cours du conclave, vous n'avez jamais pu discuter, donc ça veut dire quoi? Pas discuter réellement de l'augmentation des cotisations, que ce soit les cotisations salariales ou les cotisations patronales, ça veut dire pas pouvoir discuter de quoi d'autre, par exemple? Quels sont les thèmes sur lesquels il fallait absolument appuyer, et vous dites qu'on n'a pas utilisé ce levier-là?
Les cotisations, c'est un premier levier. Les cotisations, il y a beaucoup de personnes qui préféraient payer quelques euros de plus par mois que de travailler plus longtemps.
C'est ce que je voulais vous demander, en fait, combien, vous l'avez chiffré, vous dites que c'est combien d'euros en plus qui peuvent faire bouger la balance?
Alors, c'est à peu près 6 euros par mois, côté salarié et côté patronal, mais sauf que les 6 euros par mois côté salarié étaient différenciés selon les revenus. C'était pas 6 euros pour tout le monde. Ça pouvait aller de 1 à 2 euros jusqu'à une quinzaine ou une vingtaine d'euros pour les revenus les plus importants. Et la même chose du côté patronal. Mais dès le départ, le patronat nous a dit, nous, on mettra pas un centime dans la caisse. Donc, on peut pas... En fait, grosso modo, il nous dit, si vous voulez bouger sur l'âge, les salariés se le financent tout seuls. Et c'est là où c'est pas possible. Il faut y avoir des mesures justes et équitables, donc tout le monde doit participer.
Et on verra dans les autres leviers, parce que là, visiblement, les choses sont un peu plus partagées, si j'ose dire, ce qu'il en est de la modération des pensions par rapport à l'inflation. Je voudrais d'abord qu'on retourne au standard et qu'on écoute Maxime. Bonsoir, Maxime.
Bonsoir.
On vous écoute, Maxime.
Déjà, merci pour vos émissions. C'est toujours un temps super pour prendre du recul sur le quotidien. Moi, je m'interrogeais pour savoir si la... l'espérance de vie en bonne santé avait été prise en compte ou pas là dans les négociations, puisque moi j'ai 32 ans, la retraite c'est encore loin, mais pas, en même temps pas tant que ça, il faut que je commence à me positionner. Et c'est vrai que j'entends de plus en plus l'apparition de cancers, notamment dans ma génération. Donc voilà, je voulais savoir si tout simplement l'espérance de vie en bonne santé avait été prise en compte ou pas dans les négociations à moyen long terme.
Merci beaucoup, Maxime. Merci pour votre question. Et c'est vrai que c'est une bonne question, Franck Morel, quand on se met à mettre l'espérance de vie dans l'équation de la retraite, entre espérance de vie tout court et espérance de vie en bonne santé, il y a beaucoup d'années parfois.
Vous avez évidemment un différentiel entre les deux, mais il faut quand même noter une chose, c'est que la France est le pays d'Europe où l'espérance de vie passée à la retraite est de très loin la plus élevée, y compris après la dernière réforme. Alors après, sur l'espérance de vie en bonne santé, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à notre système de prévention. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Ça revient aussi à la pénibilité.
La prévention sur le fait de sortir quelqu'un des métiers pénibles. Moi, j'avais mis sur la table, il y a quelques années, dans un rapport que j'avais fait pour l'Institut Montaigne, l'idée selon laquelle on devrait se fixer tous ensemble comme objectif, sans que ça soit bien sûr un coup près, mais comme objectif de politique publique, le fait que quelqu'un ne reste pas plus de 10 ans sur un job pénible. C'est des efforts, ça suppose de mobiliser des moyens. Vous avez par exemple un fonds qui a été mis en place dans la dernière réforme par Elisabeth Borne, qui est le fonds de prévention de l'usure, avec un milliard, je crois, sous le contrôle de Cyril Chamanier, un milliard d'euros sur 5 ans, qui peine pour l'instant un petit peu à monter en puissance, parce que ce qui semble être, c'est qu'il y a une espèce de réticence, de frilosité, liée au fait qu'aller sur la prévention, c'est aussi en filigrane le fait de donner un avant-goût de la réparation. Donc c'est toujours pareil. On a toujours cette difficulté à concilier la prévention et la compensation. Et parfois, la compensation est un peu l'ennemi de la prévention, parce que en donnant des compensations, on va donner des raisons de moins de faire de la prévention. Vous savez, vous travaillez de nuit, vous avez une prime de nuit, j'ai une bonne nouvelle, vous allez passer de jour, j'ai une mauvaise nouvelle, vous perdez la prime. Donc il y a effectivement à prendre en considération effectivement la manière dont on peut bien concilier prévention et réparation.
Je comprends ce que vous dites et j'imagine quelqu'un qui nous écoute et qui a une entreprise de bâtiment, qu'on va pas lui demander au bout de 10 ans de troquer son entreprise de bâtiment contre
Il peut y avoir des reclassements, vous pouvez avoir du travail sur les conditions de travail pour aider au port de charge. Il y a plein de choses qui peuvent être faites.
Il y a des exemples très forts sur ça. Il y avait une entreprise, par exemple, de charpentiers où travailler sur le toit à quatre pattes en termes de pénibilité, personne ne pourra contester que c'est extrêmement pénible. Mais par exemple, arriver à une cinquantaine d'années, donc à 10 ans, un peu plus de 10 ans de la retraite, des reconversions ont été faites et donc ces personnes qui faisaient le métier de charpentier sur le toit ont été reconverties pour faire les dessins, pour dessiner cette charpente. Il y a eu deux avantages, c'est que un, passé un certain âge, on allait devant un ordinateur et le métier était plus pénible. Deuxième avantage très important, c'est qu'on s'est rendu compte que avoir dans les dessinateurs quelqu'un qui est réellement allé sur le toit, parce que souvent les dessinateurs ne sont jamais allés sur le toit faire le métier manuellement, aussi intéressant et ça apportait un plus. Donc vous voyez, alors évidemment c'est pas possible pour tout le monde, c'est compliqué, mais c'est ça qui est important. La reconversion, elle doit se faire avant 50 ans, et le gros problème dans ce pays, c'est que souvent on faisait des reconversions à 5-6 ans de la retraite, et là c'est trop tard, ça ne marche plus, et les gens ne sont plus motivés pour faire des reconversions. Donc on a l'enjeu, et d'ailleurs on a une négociation qu'il y avait aujourd'hui sur les reconversions professionnelle et sur la formation et qui va se poursuivre encore une semaine, qui est aussi également très importante.
Franck Morel,
je vous dis. J'abonde complètement dans ce que vient de dire Cyril Chabanier. Je crois que c'est plus généralement, c'est la question de la gestion des fins de carrière. Quels sont les outils dont on dispose pour gérer les fins de carrière? Je vais vous donner un exemple dans l'accord national interpro qui a été signé il n'y a pas longtemps sur les seniors, qui est en cours de transposition par le Parlement. Vous avez la possibilité de mobiliser l'indemnité de départ en retraite pour aider à financer justement la gestion des fins de carrière, parce que une fin de carrière, ça peut être aussi le fait d'être affecté sur un emploi qui n'est pas rémunéré de la même manière que l'emploi d'origine. Et donc, il faut trouver des solutions, effectivement, pour permettre de gérer ces situations. Donc, la mobilisation de l'indemnité de départ en retraite peut être une solution intéressante. Vous avez, dans certaines branches d'activité, la branche des travaux publics, par exemple, avait négocié la possibilité de mobiliser l'indemnité de licenciement, l'indemnité de rupture. C'est quelque chose que j'avais mis sur la table aussi. Il faut être imaginatif. Trouver des solutions, le temps partiel de fin de carrière est quelque chose d'intéressant aussi.
Mais j'entends bien trouver des solutions pour que donc on garde cette âge butoir à 64 ans, voilà, et que on en trouve moins des solutions, si je puis dire, pour essayer de partir.
C'est pas qu'on le garde, c'est pas forcément qu'on le garde, c'est que je pense que cette négociation sur les 64 ans ne se passera ailleurs que du conclave.
On a compris.
Et ça se passera, je pense, en 2027.
On a bien compris effectivement pour que là, en l'occurrence, pour qu'il sorte quelque chose du conclave, c'était ce que je sous-entendais. Voici Hélène qui s'est garée pour nous. Bonsoir Hélène.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Donc moi j'ai un avis assez simple sur la question. Donc je vous entends tous parler depuis tout à l'heure, je trouve ça très intéressant. Ce sont ce que moi j'appelle, alors c'est très bien de le faire, mais un peu des mesurettes, dans la mesure où mathématiquement l'espérance de vie augmente, mathématiquement nous avons plus de retraités, moins d'actifs. Donc moi je comprends tout à fait, et j'ai été la première à être concernée par la réforme, donc j'ai pris un an et demi de plus, et ça ne m'a posé aucun problème. Le problème en France, c'est que on a cette mentalité, dès qu'on touche à des acquis, et même en expliquant aux gens que ce n'est pas possible, mais les gens continuent à dire, mais moi je veux ci, moi je veux ça, voilà, alors soit on passe à un autre système de retraite, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, avec des fonds de pension, et chaque fois que la bourse casse la figure, ben, tout le monde tremble, soit on reste dans un système où on a quand même un des meilleurs systèmes sociaux du monde à tous les points de vue, mais à un moment donné, il faut que chacun fasse des efforts et que chacun comprenne. Voilà.
Merci. Ce que je voulais vous dire. Merci Hélène pour votre témoignage. Cyril Chabanier.
Il y a plusieurs choses intéressantes. On doit faire des efforts, et nous à la CFTC, on a toujours dit qu'on était inquiets du déficit du régime des retraites. Mmh. Donc on doit faire des efforts. Un, pour que les efforts soient acceptables, il faut qu'ils soient faits de manière équitable. C'est-à-dire l'État doit faire des efforts, les entreprises, les salariés, les retraités. Problème, c'est que souvent on demande des efforts toujours aux mêmes qui sont que les salariés. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième chose, c'est évidemment qu'on est prêt à faire des efforts. Est-ce qu'on veut modifier dans cette loi, ce sont des injustices. Aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les travailleurs qui ont les métiers les plus pénibles qui partent le plus tôt à la retraite dans notre système, avec certains acquis qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et je peux entendre ce que dit cette dame, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut remettre la pénibilité sur la table, parce que la seule et unique raison qui doit vous faire partir plus tôt à la retraite, c'est parce que vous avez eu un métier extrêmement difficile, que vous ne pouvez plus faire à 64 ans. Or, aujourd'hui, c'est pas forcément le métier, c'est parfois le statut qui vous fait partir plus tôt, et ça nous pose un véritable problème. Donc on veut plus de justice, que ce soit les véritables métiers pénibles qui partent plus tôt, c'est pas le cas aujourd'hui.
J'ai commencé à travailler à 16 ans, nous dit Rémi, en apprentissage. Aujourd'hui j'ai 55 ans, je dois cotiser 172 trimestres avant de partir à la retraite, sauf qu'à l'âge légal de 62 ans, puisque lui n'était pas concerné par la réforme, j'aurais enregistré 178 trimestres, soit 600 trop, alors que j'aurais pu partir un an et demi plus tôt. C'est cette situation-là qui est totalement inéquitable, nous dit Rémi. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, Franck Morel, sur le fait qu'on qu'on fait rentrer dans les caisses de l'argent dès lors que effectivement il faut atteindre les 64 ans. Là, en l'occurrence, pour Rémi, c'est les 62 ans.
Vous avez des données.
Mais il a raison, c'est très injuste, en fait.
Alors, je ne sais pas si c'est injuste. Ce qui est injuste, c'est de ne pas avoir de critères liés au contenu des tâches effectuées et d'avoir un critère qui est purement arithmétique. C'est pas forcément populaire de le dire, mais c'est une réalité. Il y a une autre réalité qu'il faut prendre en considération et qui est implacable. Vous savez, il y a certains domaines où on se dit, on sait pas comment prévoir, etc. S'il y a bien un domaine où on sait prévoir, c'est la démographie. La démographie, elle est implacable parce que vous avez le nombre de personnes qui sont nées à une certaine année, le nombre de personnes qui vont être pensionnées. Et que nous dit la démographie? La démographie, elle nous dit que le rapport entre les personnes qui cotisent d'un côté et le rapport entre les personnes qui perçoivent une pension, et c'est le propre d'un système de répartition, de faire qu'il y ait une corrélation en temps réel entre les deux, eh ben, il se dégrade de plus en plus. Il était supérieur à 2 il y a 25 ans, il est à 1,7 aujourd'hui, et il se dégrade de plus en plus. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire effectivement que ce que disait l'auditrice de tout à l'heure est tout à fait juste, ça veut dire qu'on va être obligé de prendre en considération cette donnée. De quelle manière? On va être obligé de prendre en considération en adaptant notre régime de retraite. Alors, je rejoins Cyril Chabanier, il faut le faire de manière équitable et juste, et prendre en considération une variété de critères, mais ça veut dire aussi qu'il va se poser la question de la durée pendant laquelle, au cours d'une carrière, on travaille. Il va falloir se poser la question de l'évolution des pensions, du rythme de revalorisation des pensions. Et puis, il faudra sans doute se poser la question, je pense que c'est quelque chose de nouveau, et c'est très bien comme ça, d'un étage de capitalisation, la mise en place d'un étage de retraite par capitalisation. Parce qu'effectivement, si le système de répartition progresse avec une dégradation inexorable du ratio cotisant pensionné, et ben pour absorber cette difficulté, il faudra peut-être un étage de capitalisation.
Ce qui a fait l'objet d'un téléphone sonne précédent et beaucoup fait réagir nos auditeurs. Moi, il y a un chiffre qui me frappe à chaque fois et que je ressors même à chaque fois d'ailleurs qu'on fait un téléphone sonne sur les retraites, c'est surtout les gens qui arrivent à la retraite, dans quel état sont-ils, dans quel état de travail sont-ils. Et je lis que à peu près 50% d'entre eux, lorsqu'ils arrivent à la retraite, sont au chômage, en maladie, en incapacité ou en invalidité. Enfin, je veux dire, si c'est pas ça qu'on soigne d'abord, avant de soigner l'âge, là, pour le coup, on ira dans le mur, non?
Ce sont les deux questions principales. Le président, d'ailleurs, avait dit, avant de reculer l'âge légal, il faut d'abord permettre aux personnes de pouvoir travailler plus longtemps et en bonne santé.
Et on sait très bien, effectivement, que ce sont les seniors qui sortent les premiers. On va parler de la proposition de François Bayrou tout à l'heure.
Oui,
mais je sais pas de combien de personnes on parle réellement.
Mais on a deux difficultés. On a une difficulté sur les conditions de travail, et on a beaucoup trop de gens qui sont en invalidité, en incapacité, donc ça montre bien que la prévention n'est pas à la hauteur. D'ailleurs, on a une caisse accident de travail et maladie professionnelle qui est excédentaire. Tout le monde s'en réjouit, mais si elle est excédentaire, c'est pas une très bonne nouvelle, c'est parce qu'on est très mauvais en prévention. Donc il faudrait un peu moins se réjouir. Et la deuxième chose, et là les employeurs ont une très forte responsabilité, c'est qu'on s'est servi du chômage comme une pré-retraite. C'est-à-dire que tous les chiffres du ministère nous montraient que
les seniors deux ans de chômage avant de toucher sa retraite, tout le monde
partait de l'entreprise, était dégagé des entreprises à 59 ans. Et pourquoi c'était 59 ans il y a encore quelques mois? Parce qu'à cette époque-là, maintenant c'est un petit peu baissé, mais les seniors avaient droit à 3 ans de retraite, et le hasard faisait bien les choses, 59 plus 3, c'était 62 ans. Donc les entreprises ont utilisé le chômage comme pré-retraite.
Sauf que c'est plus autorisé désormais.
Alors maintenant, c'est un peu moins.
Voilà, c'est moins
un peu
moins.
C'est plus que 2 ans. Mais c'est toujours possible, à part que c'est plus 3 ans, c'est 2 ans et demi, grosso modo. Mais c'est d'ailleurs pour ça que les partenaires sociaux et que l'organisation syndicale que je préside, de la CFTC, travaille beaucoup sur la retraite progressive. Parce qu'on préfère travailler sur la retraite progressive plutôt que se servir du chômage comme pseudo-retraite progressive.
Allez, on est en train de parler de retraite à 64 ans. Est-elle inéluctable ou pas, avec Franck Morel, qui est expert associé à l'Institut Montaigne et ancien conseiller social à Matignon, et au ministère du Travail, avec Cyril Chabanier, qui est président de la CFTC, et aussi avec vous, Denis Gravouille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT, en charge de l'emploi, des retraites et du chômage. Les négociations, vous les avez quittées. On s'en souvient, c'était en mars, le 19 mars, justement d'ailleurs sur les 62 ans, cette fameuse phrase de François Bayrou à l'époque, un retour à 62 ans est inenvisageable, compte tenu, avait-il dit, de la situation internationale, si je ne m'abuse à ce moment-là. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, monsieur Gravouille, bon, on a bien fait de partir, là où on en est aujourd'hui du conclave ou pas ?
Ben, ce que je constate, c'est que l'intersyndicale dont on a tous fait partie, hein, y compris Cyril, on le sait bien, a continué de dire que la réforme elle-même était une source de pénibilité et une source d'inégalité femmes-hommes, et c'est toujours le cas. La véritable cause, quand on manipule un Marty Pucker, déjà on nous dit que ça, on vire les gens à 60 ans, mais à 62 ans, ils sont encore plus dégagés. Donc même si on réintroduisait le critère de vibration, bon, les questions d'égalité femmes-hommes, c'est pareil, on peut toujours mettre des modifications cosmétiques, mais en attendant, le recul de l'âge lui-même augmente les inégalités. De même que la capitalisation que M. Morel vend pour Edouard Philippe, il n'y a pas de système de solidarité dans la capi. C'est un système où c'est chacun pour soi. Mmh. Or, la réalité, c'est que les jeunes actuellement mettent énormément de temps à avoir un CDI. L'âge du premier CDI, c'est 28 ans. Donc, on tape des études plus ou moins longues, des stages, des périodes de chômage pas indemnisées, des petits contrats. Et total,
plus les 43 ans.
Plus 43 annuités. En fait, l'âge légal, il est difficile.
J'espère qu'on ne vous a pas perdu. Vous êtes là, Monsieur Gravouille ?
Non, je suis là.
Oui, pardon. Oui, il y a eu un petit moment de... Alors, je ne veux pas qu'on refasse le match ensemble. Dites-moi cependant, quel est le levier sur lequel vous dites-vous qu'on aurait dû appuyer et au fond, on ne l'a pas fait pour pouvoir justement rester à flot sans pour autant être obligé de rester arc-bouté sur les 64 ans ? Est-ce que c'est la hausse des cotisations ? Est-ce que c'est l'indexation ?
On manque d'imagination. Hein. Déjà, on nous présente comme le rapport du corps, comme quoi il y a trois possibilités seulement et un recul de l'âge. C'est faux.
Ils en ont cinq et ils vous demandent d'en choisir trois pour être honnête avec le corps.
Nous, on a proposé d'autres qui n'ont même pas été regardées. Et il y en a par exemple une qui est l'égalité femmes-hommes. Si on avait déjà assuré, si possible en quelques années, par exemple tout de suite, immédiatement, on aurait tout de suite entre 6 et peut-être 14 milliards, selon les chercheuses, de cotisations pendant 40 ans. Donc, ce serait une mesure de justice et on aurait les éléments. On peut mettre à contribution des éléments financiers. Et ça, avec ça, on a les moyens de financer à la fois l'abrogation de la réforme 2023, sur lequel nous, on n'a pas bougé, et les deux tiers des Français aussi, hein, je le rappelle, les deux tiers des Français veulent l'abrogation. C'est bien pour ça que Sophie Binet a posé la question à Emmanuel Macron, qui a refusé un référendum et on a un problème démocratique. Le Parlement vote, l'Assemblée nationale a voté un vœu pour l'abrogation de la réforme, les Français sont pour, mais ça ne passe pas, parce qu'une minorité s'arroge des instruments de pouvoir pour empêcher qu'une majorité puisse avoir raison sur le dossier de la retraite. Mais finançons les retraites, oui, il y a beaucoup de moyens de financement, et évidemment qu'il faut améliorer la pénibilité, évidemment qu'il faut améliorer l'égalité femmes-hommes, mais à condition qu'on ait commencé par revenir sur le recul de l'âge, qui est la cause de la pénibilité et la cause des inégalités.
Monsieur Gravouille, vous le disiez, effectivement, après il y a ce qui sort du conclave, et puis il y a ce qui se passe derrière, et qui est du domaine même du Parlement, et qui est de la pure politique. Est-ce que au fond, ce que vous attendez, parce que c'est bien ce qui plane aussi, c'est une censure du gouvernement à l'issue du conclave, en tout cas un vote dans ce sens-là, si toutefois on en reste là. Est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'il faut en gros remettre la politique, remettre le champ politique à l'intérieur de cette réforme, parce que le champ de la négociation, pour vous, est fermé ?
De toute façon, les deux doivent s'articuler, mais pour l'instant, on discute, il y a une négociation. Sinon, on l'a quitté, je sais qu'on ne sera pas d'accord avec Cyril, mais sinon, on l'a quitté, c'est qu'on ne discute que de miettes. Pour le reste, effectivement, il y a une articulation entre la négociation et le politique, mais rien n'a fonctionné en matière démocratique dans ce domaine-là. Un 49-3 et des obstructions à toutes les tentatives d'abroger la réforme, alors qu'on sait qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un débat au Parlement et il faut qu'il revienne rapidement sur le fond de la réforme et pas sur des mesures qui seront des mesures peut-être légèrement sucrées. Mais des mesures sucrées, quand on a eu le recul de l'âge, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a la moitié des gens qui sont ni en emploi ni au chômage. On leur a raboté les droits à l'assurance chômage parce qu'il fallait punir les employeurs, mais c'est les salariés qu'on a punis. Et on a des centaines de milliers de personnes, on l'a vu, les chiffres du chômage au 1er janvier 2025, c'est plus de 50% le nombre de chômeurs de 62 ans. Donc c'est avec au moment où on a une augmentation du plan de licenciement et où les salaires qu'on a largement dénoncés, et où les salaires sont stagnent. Donc, répartissons les richesses autrement. Si on augmente les salaires, par exemple, on peut augmenter les cotisations, y compris salariales. Parce qu'on y gardera, en augmentant les salaires, on y mettra une part. Mais ça, il faut moins de dividendes pour ça.
Denis Gravouille, je vous remercie beaucoup de votre passage dans le téléphone. Je sais que vous vouliez intervenir. Monsieur Chabanier, attendez un peu. Je voudrais quand même qu'on retourne au standard. Écoutez, Frédéric, notamment. Bonsoir, Frédéric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi je suis architecte d'IA, je conçois une IA qui s'appelle Zoran et qui est une IA éthique qui a pour but d'équilibrer le vivant.
Je veux dire, vous êtes le mal, mais en fait non, vous êtes le bien. Allez-y, on vous écoute.
moi non, mais mon IA oui en l'occurrence. La question est la suivante. Dans l'équation, il y a en fait un énorme problème. Nos enfants ne veulent plus travailler.
Moi, j'en ai quatre. Ils ont plus du tout envie d'avoir des carrières comme nous, on a pu avoir envie d'en faire. Ça, c'est la première question. La première, plus affirmation d'ailleurs. Les IA sont clairement en train de changer notre monde. Il y a des gens comme Bill Gates qui l'affirment. Et très honnêtement, notre IA éthique le valide à 200%. Le col blanc va disparaître. Les médecins vont disparaître, les comptables, les avocats, tous les gobelins, tous ceux qui pensent vont disparaître, au minima des entreprises, et on nous demande de travailler plus longtemps. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que aujourd'hui, personne n'arrive à résoudre cette équation, et même de l'aborder, en fait. C'est ça qui me gêne. C'est qu'en fait, l'équation n'est jamais résolue à 100%. On vient toujours l'effleurer, on vient toujours nous dire, et nous raconter finalement que non, il n'y a pas de problème, ils n'iront pas nous remplacer. Mais en fait, enfin, j'ai juste la sensation, en fait, qu'on nous prend pour des cons, excusez-moi l'expression. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas ça sur le tapis réellement une bonne fois pour toutes.
Merci beaucoup pour votre question, ça va faire plaisir aux jeunes qui n'ont pas envie de travailler, j'ai entendu votre affirmation, mais la question sur l'IA par exemple, Franck Morel, moi je la trouve pertinente, c'est juste que dans le sens où on est en train de faire des calculs aujourd'hui et des projections sur au fond un monde du travail qu'on ne sait pas anticiper. Sait-on vraiment anticiper le monde du travail à la vitesse où va l'IA, par exemple, dans 5 ans, alors que le corps, quand il nous fait des prévisions, nous emmène jusqu'en 2070. Mais qu'est-ce qu'on sait du monde du travail à ce moment-là ?
Il faut garder beaucoup d'humilité et beaucoup de recul par rapport à ça. Moi, je me méfie des formules affirmatives toutes faites sur l'intelligence artificielle. Que nous disent ceux qui ont un petit peu travaillé sur le sujet, un peu réfléchi sur le sujet ? Ils nous disent que l'IA va être indéniablement un facteur de gain de productivité. On estime à peu près à entre 5 et 10% en fonction des études, le gain de productivité issu de l'IA. Ça, c'est plutôt bon, dans un premier temps, effectivement, pour le financement de notre modèle social. Deuxièmement, on nous dit qu'un certain nombre d'emplois vont être non pas supprimés, il y en a quelques-uns qui vont être supprimés, mais un tiers à peu près des emplois, selon l'étude, vont être impactés. Mmh. Impactés, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'ils vont cesser d'exister, mais ils vont changer dans leur contenu. Ah ouais. On citait tout à l'heure un certain nombre de professions intellectuelles.
Bill Gates, il est plutôt du côté de notre auditeur. Oui. Il dit disparu, ces emplois-là.
Écoutez, on verra bien, mais moi j'entends beaucoup effectivement d'études qui sont plutôt, je dirais, plus mesurées sur la question, effectivement, sur la transformation des emplois, et notamment des emplois intellectuels. Ce qui est assez perturbant par rapport aux précédentes révolutions technologiques, c'est que c'est une révolution technologique qui concerne plutôt les cols blancs. Ça, on n'avait pas l'habitude, effectivement. Et donc, il faut s'adapter à ça. Mmh. Il faut s'adapter, mais vous savez, l'IA, le travail en général et le rapport au travail, on parlait des jeunes, effectivement, c'est quelque chose d'assez ancien, c'est quelque chose de central sur lequel il faut travailler, effectivement.
Vous disiez tout à l'heure, Cyril Chabanier, que, effectivement, on change en gros tous les 2 ans, tous les 4 ans, enfin, tous les 4 ou tous les 5 ans. Vous expliquiez la raison pour laquelle on le faisait en changeant l'âge légal. À ce moment-là, on sait qu'il y a une entrée à l'intérieur dans les caisses de l'État. Mais je me demandais si sur ces raisons-là, pour ces raisons-là en fait, l'évolution incroyable du monde du travail aujourd'hui, donc au fond, un taux d'activité qui est extrêmement fluctuant, est-ce qu'on n'a pas intérêt, oui, à remettre sur la table cette question-là plus régulièrement finalement, tous les 4 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, j'en sais rien, mais précisément parce que tout est en train de changer aujourd'hui. Est-ce que ça aussi c'est dans l'équation ou pas du tout ?
Oui, mais d'ailleurs, je pense qu'on ferait mieux de mettre sur la table une véritable réflexion sur le modèle social qu'on veut demain et donc sur une réforme qu'on appelle systémique de notre modèle social et transformée en profondeur et non pas de changer un paramètre en coulage, en coulage durée de cotisation où on met en fait un pansement mais on réfléchit pas le modèle de manière globale. Et puis, la deuxième chose, juste pour intervenir sur ce qu'avait dit monsieur Gravouille, oui, il y a d'autres solutions de financement et moi je partage. S'il y avait l'égalité professionnelle en France parfaite, on aurait 8 milliards de plus dans les caisses. S'il y avait un emploi des seniors comme nos concurrents européens, on aurait 6 milliards. Mais j'entends en même temps mes collègues et j'entends ma collègue Sophie Binet de dire que malheureusement, à ce rythme-là, en continuant comme ça, on va mettre 150 ans pour avoir une égalité homme-femme. Voilà. Donc si on met... alors évidemment, il faut tout faire nous pour l'accélérer et aller plus vite, mais ça ne peut pas être une source de financement à très court terme et on est obligé d'aller chercher un peu autre chose. L'augmentation des salaires, c'est quand même aussi l'augmentation des cotisations derrière, et ça reste une priorité pour nous.
Il nous reste tellement peu de temps, monsieur Morel, mais moi j'aimerais quand même que vous nous disiez ce que vous pensez de la proposition de François Bayrou qui dit les seniors qui veulent rester ont fait une espèce de prime avec donc une partie de leur salaire, mais aussi une partie de leur retraite. Est-ce que ça a du sens? Et surtout, on parle de qui, en fait? Enfin, je veux dire, en termes de nombre, est-ce qu'on parle vraiment d'une majorité de gens, ça, ou pas? Qui nous aident vraiment?
Alors, il faut identifier précisément quelle est la proposition de François Bayrou. Il semble que ça soit pas quelque chose autour du cumul emploi-retraite, mais plutôt un mécanisme de prime, entre guillemets, pour quelqu'un qui resterait en emploi. Tout ce qui va dans le sens d'un maintien en emploi va dans le bon sens. Après, il faut en mesurer vraiment l'impact. Et il faut en mesurer, effectivement, les effets quantitatifs. Non, moi, je voudrais juste rajouter un dernier point, si vous me le permettez. Moi, je suis plutôt optimiste. Enfin, en tout cas, j'attends beaucoup du conclave. J'espère que le conclave va atterrir sur quelque chose de constructif, de concret. Je pense qu'il faudra prendre garde après au Parlement, et je pense que la partie patronale y est attentive, au fait de ne pas avoir à la fois les avancées qui seront du conclave et quelque chose sur l'âge. Donc il faut bien border. S'il y a un compromis, c'est un compromis global et qui devra être traité comme tel.
Compromis ou pas compromis, oui ou non, parce que ça y est, on a passé le temps.
On espère qu'on va arriver à un compromis, on l'espère toujours, mais il va falloir que le patronat fasse de vraies avancées demain. Pour l'instant, on n'est pas dans une option de signature.
Eh ben, à demain. Merci beaucoup.
Merci.
Allez,
vous.
À tout de suite.
Mission décarbonation avec EDF.
La décarbonation des entreprises est indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Bettina Lavaux, vous êtes responsable solutions énergétiques pour les entreprises chez EDF. Bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, comment EDF accompagne les entreprises dans leur décarbonation ?
Eh bien, chez EDF, nous nous engageons aux côtés des entreprises dans leur transition énergétique autour de trois types d'actions. Réguler son activité pour consommer mieux et au bon moment, électrifier ses équipements et ses process, et produire sa propre énergie renouvelable et locale.
D'accord. Et alors, qui bénéficie de cet accompagnement et pour quel résultat ?
EDF propose des solutions adaptées à toutes les entreprises. Industrie, PME, tertiaire. L'objectif, c'est de réduire ses émissions de CO2 et maîtriser son budget dans la durée.
Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau rendez-vous.
C'était Mission Décarbonation avec EDF. Pour en savoir plus, rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Axon et Move présente